Anna. Samedi 17 août 2013. Soir. Je me déteste de pleurer. C'est tellement pathétique. Mais je suis épuisée. Ces dernières semaines ont été trop dures pour moi. Et Tom et moi, nous sommes encore disputés, immanquablement au sujet de Rachel. Ce n'était qu'une question de temps, j'imagine. Ça fait des jours que je me torture pour le petit mot et pour le fait qu'il m'a menti après l'avoir vu. Je n'arrête pas de me répéter que c'est complètement idiot, mais je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression qu'il y a quelque chose entre eux. J'y reviens sans cesse, dans ma tête. Après tout ce qu'elle lui a fait, ce qu'elle nous a fait, comment pourrait-il ? Comment pourrait-il même envisager d'être à nouveau avec elle ? Je veux dire, si on nous mettait côte à côte, pas un homme sur terre la choisirait elle plutôt que moi. Et ce, même sans parler de tous ses problèmes. Puis je me dis, c'est pourtant ce qui arrive parfois, non ? Les personnes avec qui on a un passé refusent de nous laisser partir. Et on a beau essayer, on est incapable de s'en dépêtrer, de s'en libérer. Peut-être qu'après un certain temps, on cesse de lutter. Elle est passée jeudi. Elle a tambouriné à la porte et appelé Tom à grands cris. J'étais furieuse, mais je n'ai pas osé ouvrir. Avoir un enfant vous rend vulnérable, faible. Si j'avais été toute seule, je n'aurais pas hésité à la regarder en face et à l'engueuler. Mais avec Evie, je ne pouvais pas prendre ce risque. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle peut faire. Je sais pourquoi elle est venue. Elle n'était pas contente que j'aie parlé d'elle à la police. Je parie qu'elle venait pleurnicher auprès de Tom pour qu'il me dise de la laisser tranquille. Elle lui a laissé un mot. « Il faut qu'on parle, appelle-moi au plus vite, c'est important. » Et elle a souligné « important » 3 fois. Je l'ai mis directement à la poubelle. Un peu plus tard, je l'ai repêché pour le ranger dans le tiroir de ma table de nuit, avec l'horrible email qu'elle a envoyé et que j'ai imprimé, et le carnet de bord que je tiens de tous ses appels et de toutes ses visites. Le carnet de bord du harcèlement. Mes preuves, si j'en ai besoin un jour. J'ai téléphoné à l'inspectrice Riley, et je lui ai laissé un message pour lui dire que Rachel était encore venue chez nous. Elle ne m'a toujours pas rappelé. J'aurais dû parler du mot à Tom. Je sais que j'aurais dû. Mais je ne voulais pas qu'il se fâche contre moi parce que j'avais contacté la police. Alors, je l'ai mis dans le tiroir et j'ai croisé les doigts pour que Rachel oublie, comme d'habitude. En vain, bien sûr. Elle l'a appelé ce soir. Quand il a raccroché, il était furieux.
« C'est quoi ces conneries ? Cette histoire de mots ?»
Je lui ai dit que je l'avais jeté. « Je ne m'étais pas rendu compte que tu aurais envie de le lire », ai-je ajouté. « Je pensais que toi aussi tu ne voulais plus entendre parler d'elle. » Il a levé les yeux au ciel.
« Ce n'est pas la question et tu le sais très bien. Évidemment que je veux qu'elle disparaisse. Mais ce que je ne veux pas, c'est que tu commences à écouter mes conversations et à jeter mon courrier. Tu es... »
Il a soupiré. « Je suis quoi ?»
Rien, c'est simplement... C'est le genre de choses qu'elle faisait.
Ça a été un vrai coup de poing dans le ventre, une trahison. Bêtement, j'ai fondu en larmes et je me suis précipitée dans la salle de bain à l'étage. J'ai attendu qu'il vienne me réconforter, m'embrasser pour qu'on se réconcilie comme il le fait d'habitude, mais au bout d'une demi-heure, il a crié
« Je vais à la salle de sport, je reviens dans 2 heures !»
Et avant que j'aie pu répondre... J'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Et maintenant, je me retrouve à agir exactement comme elle. Je finis la demi-bouteille de rouge qui nous reste du dîner d'hier soir et je fouille son ordinateur. C'est plus facile de comprendre son comportement quand on ressent ce que je ressens en ce moment. Il n'y a rien de plus douloureux, de plus destructeur que le doute. J'ai fini par trouver son mot de passe. Blenheim. C'était aussi inintéressant que ça. Le nom de la rue où on habite. Je n'ai découvert ni email compromettant, ni photos sordides, ni lettres passionnées. Je passe une demi-heure à lire des emails professionnels si abrutissants qu'ils en adoucissent même la brûlure de la jalousie. Puis je referme le portable et je le range. Je suis très enjouée, maintenant, grâce au vin et au contenu soporifique de l'ordinateur de Tom. J'ai réussi à me rassurer. J'étais bête, voilà tout. Je monte me brosser les dents. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai encore bu du vin toute seule. Puis je décide de changer les draps du lit, de vaporiser un peu d'aqua di Parma sur les oreillers et d'enfiler la nuisette en soie noire qu'il m'a offerte pour mon anniversaire l'an dernier. Comme ça, quand il reviendra, je me ferai pardonner. Je commence à retirer les draps quand je manque de trébucher sur un sac noir fourré sous le lit. Son sac de sport. Il a oublié son sac de sport. Il est parti depuis une heure et il n'est pas revenu le chercher. J'ai un nœud dans l'estomac. Peut-être qu'il s'est simplement dit « Eh merde !» et il a décidé d'aller au pub à la place. Peut-être qu'il a des affaires de rechange dans un casier à la salle de sport. Peut-être qu'il est au lit avec elle en ce moment même. Je me sens mal. Je me mets à genoux pour fouiller dans le sac. Toutes ses affaires sont là, propres et prêtes. Son iPod, les seules baskets qu'il met pour courir. Et autre chose, un téléphone portable. Un téléphone que je n'ai jamais vu. Je m'assois sur le lit, le téléphone dans la main et le cœur qui cogne dans la poitrine. Je vais l'allumer. Je ne vois pas comment je pourrais résister et pourtant je suis sûre que je vais le regretter parce que je ne peux y trouver que des problèmes. On ne garde pas un téléphone portable planqué au fond d'un sac de sport à moins d'avoir quelque chose à cacher. Une voix dans ma tête me souffle. « Repose-le, laisse tomber !» Mais je n'y arrive pas. J'appuie fort sur le bouton « Marche » et j'attends que l'écran s'allume. J'attends et j'attends. Plus de batterie. Une vague de soulagement déferle dans mes veines comme de la morphine. Je suis soulagée parce que, maintenant, je n'ai pas de moyen de savoir. Mais aussi parce qu'un téléphone déchargé, c'est un téléphone dont on ne se sert pas, dont on se fiche. Pas le téléphone d'un homme qui entretient une liaison passionnée. Un tel homme garderait ce téléphone sur lui à chaque instant. C'est peut-être un vieux portable qui est là depuis des mois et qu'il ne pense jamais à jeter. Ce n'est peut-être même pas à lui. Peut-être qu'il l'a trouvé à la salle de sport, qu'il avait prévu de le donner à l'accueil, mais qu'il a oublié. Je laisse le lit à moitié défait et je descends dans le salon. Sous la table basse, il y a deux tiroirs pleins du genre de bazar domestique qui s'accumulent au fil du temps. Des rouleaux de scotch, des adaptateurs de voyage, des mètres rubans, des kits de couture et trois chargeurs de téléphone. Le deuxième correspond. Je vais le brancher de mon côté du lit, derrière ma table de nuit. Puis, j'attends. Des heures et des dates, surtout. Non, pas des dates, des jours. Lundi 15h, vendredi 16h30. Parfois un refus. Peut pas demain, pas mère, rien d'autre. Pas de déclaration d'amour, pas de proposition explicite. Juste des textos, une douzaine environ. Tous provenant d'un numéro privé. Il n'y a pas de contact enregistré dans le répertoire et on a effacé le journal d'appel. Je n'ai pas besoin des dates parce que le téléphone les garde en mémoire. Les rendez-vous remontent à des mois, presque un an. Quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai vu que le premier datait de septembre de l'année dernière, j'ai soudain eu une énorme boule dans la gorge. Septembre ? Evie avait 6 mois. J'avais encore des kilos en trop, j'étais épuisée, j'avais la peau rêche, on ne faisait plus l'amour. Puis, je me mets à rire, parce que c'est ridicule, impossible. En septembre, nous étions merveilleusement heureux, amoureux et fous de notre nouveau bébé. C'est impensable qu'il l'ait revu dans mon dos à cette période. C'est inconcevable qu'ils aient eu une relation depuis tout ce temps. Je l'aurais su. Ce n'est pas vrai. Ce téléphone ne lui appartient pas. Et pourtant, je sors mon carnet du tiroir de ma table de nuit et j'examine les appels pour les comparer avec les rendez-vous planifiés sur le téléphone. Je trouve des appels qui coïncident. Certains ont lieu 1 ou 2 jours avant, certains 1 ou 2 jours après. Certains ne correspondent à rien. Est-ce qu'il aurait vraiment pu la fréquenter tout ce temps-là et me dire qu'elle le tourmentait et le harcelait, alors que, en réalité, il prévoyait de se retrouver et de se voir en cachette? Mais dans ce cas, pourquoi aurait-elle appelé aussi souvent sur le téléphone fixe si elle pouvait le contacter sur ce téléphone? Ça n'a aucun sens. À moins qu'elle n'ait délibérément voulu que je sois au courant, qu'elle n'ait voulu semer la pagaille entre nous. Tom est parti depuis 2 heures. Maintenant, il ne va pas tarder à rentrer d'où il est allé. Je refais le lit, je range le carnet et le téléphone dans le tiroir de ma table de chevet. Je redescends. Je me sers un dernier verre de vin que je bois rapidement,
Je pourrais l'appeler, elle, la confronter à ses actes. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne suis pas vraiment en position de feindre l'indignation. Et je ne suis pas sûre que j'arriverai à supporter le plaisir qu'elle prendrait à m'avouer que, tout ce temps, c'était moi, le dindon de la farce. Ce qu'il a fait avec toi, il le refera avec une autre. J'entends quelqu'un approcher sur le trottoir, et je sais que c'est lui. Je reconnais son pas. Je laisse mon verre de vin dans l'évier et je reste là, appuyée au comptoir de la cuisine, le sang tambourinant à mes tempes. « Coucou !» me dit-il en me voyant. Penaud, il tangue très légèrement. « Ils servent des bières, maintenant, à la salle de sport ?» Il sourit. « J'ai oublié mes affaires, je suis allée au pub. » C'est ce que je pensais, ou c'est ce qu'il pensait que je penserais. Il s'approche un peu plus. « Qu'est-ce que tu fabriquais ?» susurre-t-il guilleret. « Tu as un air coupable. » Il passe les bras autour de ma taille et m'attire contre lui. Son haleine sent la bière. « Tu faisais des bêtises ?»«
Tom. » »« Chut !» souffle-t-il. Il m'embrasse sur la bouche, commence à déboutonner mon jean. Il me retourne. Je n'ai pas envie, mais je ne sais pas comment lui dire non. Alors, je ferme les yeux et je m'efforce de ne pas penser à lui avec elle. J'essaie de repenser à ces premières fois, quand on se précipitait dans la maison vide de Cranham Road, essoufflés, prêts à tout, affamés l'un de l'autre. Dimanche 18 août 2013, tôt le matin. Je me réveille en sursaut. Il fait encore sombre. J'ai l'impression d'entendre Evie pleurer, mais quand je vais la voir, elle dort profondément en serrant bien fort sa couverture dans ses poings fermés. Je me recouche. Mais je n'arrive pas à me rendormir. Je n'arrête pas de penser au téléphone dans ma table de nuit. Je jette un coup d'œil à Tom. Il est allongé sur le dos, le bras gauche sorti des draps, la tête en arrière. Au rythme de sa respiration, je devine qu'il n'est pas prêt de se réveiller. Je me glisse hors du lit, j'ouvre le tiroir et je prends le téléphone. En bas, dans la cuisine, je le tourne et le retourne dans ma main. Comme pour me préparer. J'ai envie de savoir, et je n'ai pas envie. J'ai envie d'en être sûre, mais j'ai tellement envie d'avoir tort. Je l'allume. J'appuie longuement sur la touche 1 jusqu'à ce que se déclenche la voix enregistrée du serveur vocal. J'entends que je n'ai pas de nouveaux messages, ni de messages sauvegardés. Est-ce que je veux modifier mon annonce d'accueil? Je raccroche. Mais je suis soudain saisie d'une peur irrationnelle que le téléphone se mette à sonner et que Tom l'entende depuis le premier étage. Alors j'ouvre la porte coulissante et je sors dans le jardin. Sous mes pieds, l'herbe est humide et je respire l'air frais empli du parfum de la pluie et des roses. Le grondement sourd d'un train résonne au loin, mais il ne sera pas au niveau de la maison avant un bout de temps encore. Je marche presque jusqu'au grillage avant de rappeler la boîte vocale. Est-ce que je veux modifier mon annonce d'accueil? Oui. Un bip, un silence, puis sa voix. Sa voix à elle, pas à lui.
Salut, c'est moi, laissez-moi un message.
Mon cœur s'est arrêté de battre. Ce n'est pas son téléphone à lui, c'est le sien, à elle. Je réécoute l'annonce.
Salut, c'est moi, laissez-moi un message.
C'est sa voix. Je n'arrive ni à remuer, ni à respirer. Je réécoute, encore et encore. La gorge serrée, je suis au bord de l'évanouissement, puis je vois la lumière s'allumer à l'étage.